Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Juste, faut qu'on sache qui lance l'émission.
Qui lance l'émission,
qui lance l'émission.
Allez, donc là, je propose qu'on fasse un Shifumi à 3. Donc, il peut y avoir match nul, mais...
Okay. Allez.
1, 2, 3.
Shifumi.
Donc moi, j'ai gagné. Il y a match nul entre vous deux.
C'est vrai qu'il y a
Shifumi. Shifumi.
T'as gagné. Et c'est François qui démarre.
Oh, mais non, j'en ai marre.
Bah, c'est François.
Bah si, tu vas démarrer François, tu vas être nul et on va le refaire.
Je
voilà.
suis sûr que vous le faites exprès.
Mais ouais, on a que ça à foutre.
La Fabrique, avec aujourd'hui Juliette Arnaud, Ramzi Assadi et notre invité Frédéric Fromet.
C'est parti là.
Salut Fred.
Ouais. Salut. Bonjour Fred.
Salut. Bonjour Juliette, bonjour Ramzi, bonjour François.
Bonjour.
Salut.
Bonjour Frédéric, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création, épisode 3.
Ok.
Parce qu'il a oublié de le dire évidemment.
Épisode 3.
Ça commence bien.
Avec Juliette Arnaud, auteur.
Autrice.
Auteureux. Non, on ne dit pas auteureux.
Non.
Autrice. Réalisatrice, comédienne, chroniqueuse.
Top modèle.
Chanteuse. Vraiment toutes les qualités.
Ouais.
On l'adore.
François Audouin, qui en a moins, mais
j'essaie de maintenir.
Réalisateur, comédien, auteur aussi, et plein d'autres choses. Mm-hmm. Et Frédéric Fromet, qu'on qualifierait de chansonnier.
Ouais, on peut.
Chanteur, en tout cas.
Toi, tu dis comment, par
non,
exemple.
Non, ouais, chansonnier, en fait.
Quand on te dit vite fait...
Non, je dis
toi, chansonnier. Tu fais quoi dans la vie? Tu dis chansonnier.
Ouais, c'est okay. Un peu, ça fait un peu...
Ça fait un peu désuet,
un peu désuet, mais...
Mais quand même, t'aimes bien.
Bah, c'est ce que je fais parce que je traite l'actu en chanson. Du coup, c'est pas vraiment. Oui, c'est un boulot de chansonnier.
Ouais, ça. On voit tout de suite ce que tu fais quand
ouais,
tu dis chansonnier.
Des fois, on a l'impression. Enfin, quand on dit chansonnier, moi, je pense à Jean Roucas, par exemple.
Ah ouais.
Ouais, mais Georges Brassens aussi, non?
Ah ouais.
Il avait bien commencé de la sorte, Brassens.
Je crois dans un cabaret.
Un truc de. Bah,
ouais, si, si.
Ouais, dans les caves de Saint-Germain.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Ouais.
Donc oui, mais c'est vrai que.
On verra, on cherchera plus tard.
Oui, on cherchera.
alors, Frédéric Fromet, peut-être que tu as une question, Juliette, non?
Non. Je t'en fous, je bois tes paroles.
Et de la bière aussi.
Oui.
Est-ce que Jean Roucas est une inspiration pour toi?
Non, j'ai pas pris mes notes.
Ah, mais j'ai une anecdote avec Jean Roucas.
Ah ben,
Jean Roucas.
On commence
Jean
par Roucas. Une anecdote.
Ouais.
On commence par une anecdote. Regarde caméra.
Parce qu'une de mes premières scènes que j'ai faites au Caveau de la République, c'était un plateau. Et
c'était dans quelles années à peu près?
2009.
Ah.
Exactement. Et dans les premières représentations, j'étais à l'affiche avec Jean Roucas. Et je me souviens d'une fois où je passais juste après lui. Et il faisait des super blagues en disant vous savez pourquoi Bertrand Delanoë a instauré le Vélib à Paris ? Non, parce qu'il est de la pédale. Ok.
Sérieux ?
Oh là là.
Et moi, je passais juste après. Youhou ! Mais c'était
terrible. Ah ouais. Il était déjà d'extrême droite ou pas encore ?
Oh oui.
Ouais.
Oui,
ça s'entend. La blague, en tout cas,
il était au moins homophobe.
Au moins homophobe. Ouais. Bon, bref, voilà, c'était l'anecdote.
Super.
J'adore.
C'est l'anecdote, on dit du bien des morts. Il n'est pas mort.
Non.
Il
est...
Oh, c'est tout comme.
J'aurais pas dû l'installer, cette caméra. Je vais me faire que des regards caméra, Juliette. Frédéric, donc toi, tu as commencé ton métier de chansonnier, donc.
Voilà.
Assez tardivement, pour une carrière.
2009, voilà.
2009, donc ouais. Tu avais un métier avant.
En vrai.
Et c'était quoi exactement ? Tu faisais quoi ? Tu étais dans l'informatique ? Non ?
Ouais, j'étais dans l'informatique. Je développais des logiciels de gestion de portefeuille pour les traders.
C'est pas vrai ?
Exactement.
Oh, ça ?
Le coming out qui fait mal aux fesses.
C'est à cause de toi tout ce qui se passe ?
Un peu.
Ne crie pas, François, je te jure, ne crie pas. Tout le monde t'entend.
Ouais. Puis il y a des voisins. non, et du coup, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Donc, ouais.
T'a pris combien de temps
De me demander ce que je foutais là.
Oui.
Depuis le début, en fait. Mais tout à l'heure, par exemple, j'ai écouté le podcast avec Charline, mm-hmm. et qui disait qu'elle était arrivée, je crois, un truc dans le genre, dans l'humour, par dépit. Moi, c'est par défaut, je dirais. Parce que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Donc, après. Peu importe ce que j'aurais trouvé comme activité, j'aurais foncé.
Comment tu t'es dit, tiens, je vais. Donc, j'imagine que tu jouais de la guitare depuis toujours, depuis gamin.
Ouais, dès ma naissance.
T'es né avec un pote, tu vois.
Ouais, depuis très longtemps. Et,
comment tu t'es dit, tiens, j'écrirais bien des chansons. Je sais pas, t'as commencé tout de suite par des chansons parodiques ou des. Où tu faisais des chansons
Non, je faisais mes chansons à moi. Mais comment ça m'est venu ? Bah, un peu par. Souvent, j'écris quand je suis un petit peu. Quand il y a des sujets qui m'énervent. Mmh. Et en fait, j'écoute beaucoup la radio, et notamment des radios musicales. Et il y avait plein de chanteurs qu'on présentait comme des génies. Et j'écoutais les textes, je me disais, mais non, c'est ça des génies. Et du coup, ça m'a donné envie d'en écrire un. Juste après avoir entendu exactement Lara Fabian qui chantait « Je t'aime comme un fou, comme un soldat ». Ah. Ça veut dire quoi « Je t'aime comme un soldat » ?«
Mais je t'aime comme un fou », on ne voit pas très bien, on a peur de savoir. Ouais. « Je t'aime comme un soldat », ça fait flipper.
Bah, oui. Après,
je t'aime comme une star de cinéma, ça n'a aucun sens.
Voilà.
Ça,
et du
ça
coup,
amène
fois...
juste des images. De...
Oui. Ouais, mais
comme une star de cinéma, tu te dis « Ah, c'est l'amour ». Le truc sous la pluie.
Oui. Et le soldat, c'est plutôt le viol, tu vois.
Et je t'aime comme un fou.
Comme un fou, c'est un truc que tu peux pas contrôler. C'est un amour que tu peux pas contrôler, que tu peux pas maîtriser.
Bah, ça fait envie.
Oui, oui.
Bref,
merci Lara Fabian.
Le décryptage de Lara Fabian.
Pour moi, c'est un peu des conneries. Donc, il y a des chanteurs comme ça qu'on présente comme des génies. À chaque fois, je me dis, mais arrêtez, c'est juste des gens qui écrivent des chansons déjà. Donc, quelqu'un qui écrit une chanson. Que rares exceptions près, c'est pas un génie.
Qui, par exemple, c'est un génie qui écrit des chansons ?
Après, génie, yeux. C'est compliqué comme
enfin, terme, à tes mais... oreilles.
Bah, Georges Brassens, c'est super bien écrit.
Ah, ouais. Je valide.
Renaud, à sa belle époque, c'est très bien écrit aussi, je trouve.
Connard de virus, un peu moins, mais.
Oui, mais j'ai dit à sa belle époque. Voilà. Ça, là, c'est des. Oui, là, c'est très bien écrit, mais là.
Mais c'est très bien écrit parce que ça a du sens.
Aussi, ouais.
Non, parce que sinon, t'aurais pu dire, par exemple,
Gainsbourg. Mais sur la sonorité aussi.
Oui.
Je pense qu'il y a...
Non, mais j'entends bien, mais il se trouve qu'il cite Brassens et Renaud, qui sont deux chanteurs qui ont beaucoup parlé beaucoup de leur époque.
Oui, bah du coup, oui, c'est important ce que tu dis, parce que moi, je suis très peu sensible à ce que fait Gainsbourg, par exemple.
Et tu penses que c'est dû à ça ?
Ouais.
Tu penses que c'est dû au fait que le sens de ce qu'il y met, qui n'est pas un récit du monde autour de lui
Ouais, c'est carrément ça.
Et donc, en écoutant des chansons, tu t'es dit, ah, ben, moi, je peux faire mieux.
Non, je ne me suis pas dit je peux faire mieux, ah, mais je ferais pas pire. Voilà, je ferais pas pire, donc j'ai essayé, bah, pof. Et puis, il y a eu un déclic, c'est venu comme ça, vraiment, après Lara Fabian. Et puis après, j'ai écrit plein de chansons.
Tout seul dans ton coin.
Ouais, dans mon coin, j'avais pas... en fait, moi, j'aime pas trop me mettre en avant, etc. Donc, c'était pas du tout l'idée de faire ça devant des gens. Mmh. Et puis, un jour, à mon insu, on m'a inscrit à un tremplin de chansons. Et j'ai reçu une convocation, comme quoi j'ai été retenu. Après, on m'a expliqué d'où ça venait, etc. Et donc, j'y suis allé.
Pourquoi
j'y suis allé? Mmh. Bon, pour voir. J'étais retenu, je me suis dit... plus, c'était tremplin de chansons d'humour, donc ça tombait bien. Et j'y suis allé, j'ai gagné le tremplin, et puis, puis voilà, de fil en aiguille, c'est venu comme ça.
Et quand t'as arrêté, je peux ?
Ouais, bien sûr, tu peux.
Mais bien sûr que tu peux, je remonterai tout dans l'ordre, mais vas-y, non, je plaisante, vas-y.
Mais là, on parle vraiment de la création, c'est ça l'idée. Hein.
Ouais.
Ok, parce que là, j'ai l'impression de parler que de moi.
Oui, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse aussi... c'est le chemin, ouais. Comment tu t'es dit, comment t'es passé d'un poste standard de bureau que tout le monde peut avoir à t'autoriser aussi à te dire que ben tiens je peux faire des chansons. Donc toi en fait voilà, c'est évidemment tu parles beaucoup de toi, mais c'est normal parce que c'est le cheminement qui nous intéresse.
Okay.
Vas-y Juliette.
Quand t'as arrêté de faire
le zouave.
Non, les portefeuilles de trader, voilà, j'ai même pas compris ce que ça voulait dire.
Moi non plus.
C'est des logiciels de compta, en gros.
Ouais, de gestion.
Continue à mettre des moules derrière les uns derrière les autres que je comprends pas, qui m'évoquent rien, c'est pas
trader,
grave.
Le trader, il a un logiciel, il clique, il fait vendre, acheter,
voilà, input, output. Oui,
voilà, allez. De toute façon, on s'en fout que je comprends rien.
Oui, c'est pas grave.
Quand tu... à aucun moment, tu t'es... Enfin, à quel moment tu t'es dit, bon, mais en même temps, il faut quand même que je gagne, que je gagne ma vie. Comment je procède?
Oui, oui. Et bah, du coup, je me suis pas lancée comme ça, tête baissée. J'ai d'abord pris un congé sabbatique qui a duré 6 mois. Et en fait, oui, tout a démarré au caveau de la République, le fameux caveau où je partageais la scène,
tout ça,
la rocasse. Et en fait, c'était en 2009 et j'ai été pris à l'essai pendant 3 mois, à l'issue desquels on m'a dit c'est bon, je t'embauche pour toute la saison. Et du coup.
Du coup, tu avais une sécurité, une assurance. Déjà sur un an.
Un an. Et après. Bah,
mais
voilà.
Ça te permettait
de
vivre, oui.
Oui, oui, parce que c'était genre 5 représentations par semaine.
Ok.
Donc
ça c'est intéressant, large. François, toi, quand t'étais réal et que t'as voulu devenir comédien, t'étais déjà réalisateur radio, donc un métier à temps plein, quoi.
Plus d'autres choses, j'étais déjà intermittent, je bossais pas que à la radio, mais oui.
Et toi, donc t'as pris des cours de théâtre, comment t'as fait pour vivre à ce moment-là, en fait, tu faisais quoi,
Ben si, c'est ça, je bossais, parce que j'avais une formation, alors après j'avais différents ateliers, donc le soir, après ça a été l'après-midi, après le matin, donc, mais en gros j'étais pigiste, donc j'acceptais autour de ces horaires-là, et donc quand j'étais le matin, ben, je prenais que les trucs à partir de 13h.
Ah, t'étais intermittent?
Ouais, j'étais intermittent à ce moment-là.
Ah oui, t'avais pas...
Non, je suis CDI depuis pas longtemps, moi, seulement. En fait, j'ai fait quasiment, depuis 3 ans, depuis que je me suis posé quand mon fils est né. Voilà, enfin, je me suis dit, voilà, ce serait bien de... mais avant, j'ai fait
pareil,
la moitié de toute
après, quand
vie,
tu faisais les castings, quand tu faisais des pièces, parce que tu as fait plusieurs pièces, tu faisais ça en même
en
temps
plus,
que...
Ouais.
Ah ouais.
Ouais.
Ouais, c'est costaud. Et toi, Julien, vas-y.
Non, vas-y.
Et toi, quand tu as démarré en tant que comédienne, tu faisais... tu bossais à côté, comment tu... Comment t'as démarré
Quand on a commencé à Arrête de pleurer Pénélope, à l'écrire et à le jouer dans des petits endroits, oui, je continuais à être...
Vous n'arriviez pas à en vivre tout de suite?
Non.
Et donc
j'étais
faire
un peu vendeuse,
boulots...
un peu serveuse, un peu standardiste, un peu à peu près de tout ce qu'il est possible de faire de manière sporadique, enfin voilà. Et puis après, il y a eu la fois où il a vraiment fallu qu'on se lance et où financièrement, on s'est fait un petit peu peur. En tout cas avec Christine qui jouait Pénélope, parce qu'on a accepté de jouer pendant 2 mois d'affilée à Lyon, dans une ville donc qui n'était pas la nôtre. Et donc, on avait loué un appart en réunissant nos économies, petit, à 3. mais pas le même nombre de chambres que de comédiennes. Et là, en fait, on vivait de la recette qu'on allait gagner. Sauf que cette pièce, on ne savait pas du tout si elle allait plaire. Et donc, on a d'abord passé 15 jours, 3 semaines à... On avait la dalle, quoi.
Ouais.
Mais pas grave, enfin, voilà. Mais
il y a un moment, ils n'avaient pas acheté le spectacle. C'était
non,
vraiment
pas du
guichet.
Tout. C'est si ça marchait, on prenait, je sais plus, genre 30% de la recette à se partager à trois. En fait, on s'est vite rendu compte que
chacun.
On s'est rendu compte que si la salle, elle n'était pas blindée, c'était pas bon, quoi. Et il se trouve que la salle, elle a été blindée en 15 jours.
Donc oui, mais ça, tu pouvais pas savoir. Donc
non, c'est pas un risque. On a pris ce risque. Et vraiment, moi, c'est des soirs où je me suis couchée, genre tous les soirs, en me disant pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études ? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études ? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études ? Vraiment.
Et toi, du coup, quand t'as eu ce contrat à l'année, t'as quitté ton boulot
ou
t'as prolongé une année sabbatique ?
Non, mais du coup, ce dont je me souviens, c'est que les trois premiers mois où j'étais pris à l'essai, j'ai pas. C'est pas là que mon congé sabbatique a démarré, c'est-à-dire je conjuguais les deux boulots. C'est-à-dire la journée, je bossais dans mon entreprise, là, de développer des logiciels, et le soir, quand il n'y avait pas une réunion qui me retenait, de toute façon, je partais en vitesse, sans le dire à mes collègues, parce qu'ils n'auraient pas compris, et je courais aller jouer au chaos de la République. Et c'était assez particulier. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote rigolote, c'est que le soir du 31
décembre... Avec Jean-Casse ?
Non, c'est qu'il y a eu une représentation spéciale. Personne à mon boulot savait ce que je faisais. Et il s'est trouvé qu'au premier rang, il y avait mon patron qui était là.
C'est mais non
Et lui, il savait pas. Et moi non plus. Et je voyais que lui.
Oh
et
là là là
ma
là
première
là
chanson, en plus, je démarrais le spectacle, c'était une chanson...
Gros con, ça s'appelait.
Gros con de patron.
C'était dit autrement, mais c'était une chanson contre les patrons.
Mais non mais Fred.
Et tout le long, je l'ai regardé. Oh là là,
il a rigolé.
Ouais, il a ri et à la fin, il est venu me trouver en me disant « Bon, à mon avis, vous n'allez pas rester longtemps chez nous. » Voilà, il a compris.
C'était un gros con, mais c'est un gros con intuitif.
Non, alors, en fait, il était super
ça,
sympa.
Ça ne pas lui.
Ah, c'est cool.
Ouais.
Alors,
mais c'est vrai que, pardon, mais du coup, la question comment vivre
au début,
c'est une super question.
C'est compliqué,
c'est pas
évident.
Il y a toujours un petit moment où c'est tendu.
Il y a un risque que tu prends.
Je connais personne autour de moi, de ce que j'ai vu. Oui, la plupart des gens, c'est tendu. Il y a des moments qui sont ultra tendus.
Mais d'ailleurs, c'est étrange que tu t'aies pas dit à tes collègues que tu jouais. Parce que généralement, tu essayes de faire venir un maximum de gens pour remplir ta salle. Et donc,
Ouais, mais le chaos de la République, c'était, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin pour ça.
Ouais, moi, j'avais fait venir, mais à l'époque où j'étais standardiste dans une boîte de pub, on en avait fait une date. Parce que c'était une fois qu'on faisait une date. Et donc, c'était les filles de la boîte de pub qui nous avaient fait notre petite affiche. Et les bichettes, elles étaient toutes venues. Et ça m'avait fait bizarre parce que dans
mais c'est toi qui les avais leur avais demandé
moi,
de venir.
Moi je m'entendais hyper bien avec tout le monde dans la boîte, je faisais n'importe quoi au standard, j'étais la standardiste la plus nulle de la planète, mais je les faisais beaucoup rire. Parce que j'étais joyeuse, j'étais de bonne humeur,
ça a pas
quoi.
Beaucoup changé,
voilà, ouais. Je riais, je me trompais, je faisais bon, ce genre de truc. Et ça m'avait vachement touchée parce qu'il y avait autant de filles que de garçons dans cette boîte de pub et toutes les filles étaient venues.
Ah, c'est beau. T'avais une question, François ?
Oui, parce qu'en fait, ça va un peu vite. J'ai pas bien suivi le cheminement. Oh, arrête.
Je pense que c'est normal. J'ai pas
non, mais parce qu'en fait, tu vois, en fait, c'est morcelé. L'idée, c'est vraiment de. Donc, pendant combien de temps t'as fait ce métier-là, en gros ? Le premier métier. Hein.
Je sais pas. Une dizaine d'années.
Ouais, dizaine d'années, ouais.
Et en fait, c'est qu'est-ce qui déclenche tous, vraiment parce
tous,
que.
Tous.
Tu vois, tu te dis, je vais au caveau de la Huchette, mais et le
République.
Le caveau sinon, de la Huchette. Ça veut dire qu'il fait
ouais.
Déjà
tout. Ouais, le caveau de la République. Parce que pas mal aussi.
Vous êtes sur FIPA.
Mais du coup, le tremplin, c'est pendant que t'es. C'était avant le caveau de la République.
Oui, c'était avant.
Donc c'est ça qui déclenche. Ah oui. En fait, toi, tu te dis, t'es là-bas dans ce boulot qui te fait chier.
Ouais.
Tu te dis. J'ai envie de faire autre chose.
Voilà.
Tu sais pas quoi, de la musique certainement. Est-ce que des chansons rigolotes, t'en as déjà ?
Ouais.
Et puis, il y a quelqu'un qui te pousse un peu et qui t'inscrit, parce que t'as pas dit qui.
Pour l'instant, c'est ça. Des potes.
Des potes, ils te disent, ils te trouvent que t'as du talent.
Et
qui disent,
enfin, Frédéric, arrête.
Mais si, ils se disent ça, ils disent, on l'inscrit. Parce qu'il faut qu'il se lance.
C'est pas un dîner de cons
en
plus.
Ou alors c'est un dîner de cons, mais vraiment, non.
Non, mais ouais, c'est ça.
Et donc, tu y vas, tu gagnes le tremplin, et c'est après où tu fais le caveau de la Huchette, c'est ça?
Arrête,
je vais vraiment faire du jazz.
Mais est-ce que c'est ce moment-là où, en fait, tes potes te disent, c'est eux qui te lancent? Ou tu t'étais dit, je me lancerai quand même, ou tu, ça te grattait, enfin ça te démangeait, t'allais le faire?
Non, j'avais pas envie, jamais je me serais inscrit à un tremplin ou quoi que ce soit.
Mais t'aurais trouvé, à défaut d'un tremplin, t'aurais pu passer par, je sais pas, une audition.
Oui, voilà.
Je pense pas que j'aurais osé le faire.
Pourquoi tu vas au chaos, mais pas de la Huchette, de la République alors?
Comment tes potes savaient que tu chantais, que t'écrivais, que tu chantais ce genre de chansons? C'est que tu jouais bien devant eux.
Ouais, ou dans mon... mais ils ont, en fait, ils ont parce que pour être tenu au tremplin, c'était sur sélection d'un enregistrement. Et je faisais des petites cassettes. Ils ont chopé une cassette.
Voilà. Ah, et comment ils les connaissaient?
Tu t'enregistrais sur cassette?
Tu leur faisais écouter?
Chez moi, ils ont vu les cassettes, ils l'ont piqué. C'est ça. Non, mais j'ai jamais joué, sinon, ma soeur, je jouais devant
personne. Ah oui, donc là, le stress pour le tremplin. Et comment ça s'est passé?
Bah, c'était rigolo parce que j'ai jamais monté sur une scène, j'avais jamais chanté devant des gens.
Dans le jury, il y avait Jean Roucas.
Non, alors c'est rigolo parce que tout de suite j'ai trouvé le ton. Il y avait l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine. Puis tout le monde était très déférent, monsieur l'ambassadeur. Et je suis arrivé sur scène et j'ai commencé par me foutre de sa gueule direct. Donc ça a bien marché. Les gens se sont dit, mais les gens, les autres concurrents, ils se sont dit, ah, c'est bon, c'est dans la poche, il vient de se griller auprès de l'ambassadeur. Ouais. Mais en fait, ça a super bien marché de se moquer de lui.
Ah.
Voilà. Et non, mais après, ça s'est passé. Ouais, c'était. Bah, comme je savais même pas comment ça fonctionnait la scène. Par exemple, je cherchais partout le câble pour brancher ma guitare. Je ne savais pas qu'il était posé là, sur le pied de micro. Enfin, c'était n'importe quoi tout du long. Mais comme c'était un tremplin de chansons d'humour, ça a passé. Les gens, ils ont cru que je faisais exprès, mais pas du tout.
Que tu cherchais le micro, le câble?
Ouais.
Tout à l'heure, tu as dit « j'ai jamais chanté devant personne à part devant ma sœur ». Donc, tu as commencé la guitare. C'est toi qui as demandé… envie d'une guitare quand tu étais môme?
Oui.
Pourquoi?
Eh ben alors, en fait, je dois tout pour la chanson à Lara Fabian et pour la guitare à Enrico Macias.
Mais je joue super bien de la guitare, non?
Mais ouais, du coup, ça... En fait, c'était dans... Je l'ai vu à la télé, je crois que c'était dans l'école des fans, et il a joué de la guitare. Je me suis dit, mais il joue super bien, et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Voilà.
Sérieux?
Ouais, ouais, vraiment.
Mais t'avais quel âge?
J'avais 6 ans, je crois.
Oui, donc genre l'âge des gamins qu'on voyait dans l'école des fans. Et t'as vu Enrico avec sa bonne tête gentille. Et à quoi?
Et c'est un super guitariste.
Hein. Il paraît que c'est un super guitariste, effectivement. Et toi, à 6 ans, comment tu pouvais ça? Enfin, qu'est-ce qui te faisait dire que c'était un super guitariste? Parce que t'es pas d'une famille de musiciens,
non,
toi.
Non. Bah ouais, enfin oui, à 6 ans, j'avais peut-être pas conscience que c'était un super guitariste, mais j'ai vu qu'il jouait bien, quoi.
Oui, c'était beau ce qu'il jouait.
C'était beau. Du coup, je me suis dit, oh, la guitare, ça me plairait bien. Voilà.
Et donc, tes parents t'en ont offert une?
Voilà. Et ils m'ont offert des cours.
Et t'as pas lâché?
Et j'ai
parce
pas lâché.
Parce que la plupart des mômes, quand ils attaquent un instrument...
Ouais, non, c'est chiant.
Ils... Ouais, oui, oui.
Plus au conservatoire et tout. Pff, j'ai fait 10 ans de conservatoire, à peu près.
Mazette!
Ouais. Bah, ça se voit pas aujourd'hui.
Si, regardez pas comme ça. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ça qu'on est en train.
C'est vrai qu'on a écarquillé les yeux, mais c'était pas pour la surprise.
Non, mais je suis d'accord. Bah, après, ça me donne juste une base, une assurance pour... Voilà. Je me soucie pas de la guitare quand
je fais une chanson. Oui, la technique, c'est pas... Ouais,
ça va. Mais bon.
Et les premières chansons, parce que tous les gens qui commencent à faire de la musique, quand ils commencent des chansons, ils commencent par faire des reprises.
Ah oui, moi c'était guitare classique. Et après, ah oui, quand j'ai.
Quand tu t'es dit. Chansons, oui, ouais, parce que c'est une chose que les guitaristes.
Non, direct, j'ai écrit en écoutant Lara Fabian, j'ai écrit une chanson et c'était un déclic. Mais j'ai jamais eu envie de chanter les chansons des autres. Je me dis, à quoi bon? Ça m'intéresse pas. Les textes des autres, ça m'intéresse pas de les chanter en fait. Tu vois, même là, par exemple, l'exercice que je fais chaque vendredi, je détourne des textes.
Ouais.
Ça m'intéresse. Voilà. Ça m'amuse. Mais chanter les textes des autres, je trouve ça... Je ne suis pas un bon interprète pour faire ça. Quoi. J'aime bien que le texte vienne de moi. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui veulent me proposer leur aide, des co-auteurs, etc. Mais je refuse. Je me dis, non,
et l'inverse, écrire des chansons pour d'autres? Est-ce que ça t'amuserait? Est-ce que ça, tu l'as déjà fait?
On m'a déjà proposé, mais je trouve ça très compliqué. Et en plus, quand je suis pas trop mécontent du texte, je me dis, mais pourquoi je lui donne? Je le garde pour moi.
Il n'y a pas des textes où tu te dis, ça correspond pas trop à mon style, mais j'aime bien ce texte,
donc
je le fais pour quelqu'un d'autre. Non.
J'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi.
D'accord.
Et la première fois, donc, c'est Lara Fabian et la première chanson drôle.
Ouais, en plus, c'était sur la religion, je m'en souviens très bien. Comme toute première chanson. Hop, sur les cathos, paf.
Elle s'appelait comment?
Les escaliers étaient en panne, le truc, on comprend. Hein. Et des gens m'en parlent encore, ça, ça les a marqués.
C'est vrai?
Ouais, c'était sur l'histoire d'un curé en soutane, je ne sais plus ce qu'il foutait. Bref.
Et quand tu gagnes ce tremplin...
Tu le gagnes?
Oui, il oui, a dit qu'il l'a gagné.
Il faut écouter, hein, Ramzy.
Quand tu gagnes ce tremplin, du coup, c'est quoi tes émotions? Tu es sur le cul, tu dis... Parce que tu y allais peut-être un peu comme ça, juste pour voir ce que tu disais tout à l'heure.
Bah oui, du coup, je me dis, mais c'est incroyable. En plus, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on gagnait... Je ne sais pas s'il y avait de l'argent, si un petit peu, mais on gagnait le droit de faire des spectacles sur des scènes à Bruxelles, je me souviens même. Jouer dans un café-théâtre, on gagne des représentations, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, ben, ça vient comme ça.
Donc, tu fais ces scènes que tu gagnes à Bruxelles, tout ça,
ouais.
Machin. Et qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu dis « Ok, j'ai passé une audition au Café de la République ».
J'ai pas passé d'audition au Café de la République. J'ai joué l'été 2009 dans une cave au Festival d'Avignon.
Alors attends, explique-nous alors, comment tu te retrouves au Festival d'Avignon à ce moment-là?
Pendant mes vacances, je me dis juillet-août, qu'est-ce que je pourrais faire? Mois de juillet.
Ouais.
Du coup, je me dis tiens, je vais aller jouer un peu au Festival d'Avignon. Après, pourquoi?
Mais ça, c'est quand même pas si simple, parce que c'est une organisation.
Non, mais dans une cave, ça va.
Oui, mais c'est quand même une démarche.
Enfin, je veux dire, c'est une démarche, il faut louer une salle, ça coûte
même. Ah non,
même
mais
si
moi,
je n'ai
rien loué du tout. En plus, je jouais plus dans la rue
que dans ta cave.
Que dans la cave, il n'y avait personne. Donc, je préférais jouer dans la rue.
et tu faisais la... T'étais au chapeau? Quand t'étais dans la rue?
Ouais, je mettais au chapeau, ouais.
Et ça marchait?
Ouais, ça marchait pas mal. Et en fait, le directeur du caveau de la République, il faisait son marché là-bas.
Ah bah oui.
Et il m'a repéré dans la rue. Okay. Il m'a dit, oh, mais toi, tu m'intéresses.
Donc il t'a repéré dans la rue et pas dans la cave.
Il m'a repéré dans la rue et après, il est venu voir dans la cave.
Okay.
Et après, il m'a dit, bah tiens, je te laisse ma carte.
Et dans la rue, c'était un teasing, c'était ta pub, le d'autre tracté,
ouais,
tu jouais.
Ouais, je me souviens,
quoi.
C'était Casse-toi, pauvre con, je chantais sur Sarkozy. Voilà, merci. Ah, je dois tout. Lara Fabian, Enrico Macias et Nicolas Sarkozy.
En fait, t'es de droite.
C'est vrai que la plupart.
La droite a aidé.
Enrico et. Ouais,
la droite
Lara
a aidé.
Fabian, je sais pas. Ouais, c'est vrai.
Et là, au Festival d'Avignon, dans ta tête, tu commences déjà à faire cette bascule où tu dis ok, ça marche un petit peu, j'ai gagné 2-3 trucs, il y a un public, je vois que dans la rue, les gens sont intéressés.
Bah, c'est vraiment le caveau de la République qui a tout déclenché, ouais. Qui m'a mis le pied à l'étrier. Ouais, c'est ça qui a tout déclenché. C'est même l'endroit où j'ai rencontré Alex Vizorek.
Ah.
Donc, tout est parti de là, en fait.
Alors, tu l'as rencontré dans quelles circonstances?
Lui, jouait...
Bah, il jouait aussi.
Il jouait au caveau de la République.
Ouais, il a joué.
Et il était déjà sur Inter? Il allait arriver sur Inter.
Après le... Ouais, il allait arriver sur Inter. Ouais,
exactement. Et donc, c'est là où il t'a demandé de...
Et bah, il m'a dit, tiens, viens un vendredi faire une chanson. Et puis j'ai fait, il m'a dit, bah tiens, viens le vendredi suivant. Et puis voilà, c'est plus
et
jamais
puis
arrêté.
10 ans là, après.
Non, 8.
Ils savent pas comment me le dire.
Bah non, parce que c'était sur le 70. Non,
t'étais déjà au 78.
Ouais, ah. 75 minutes.
Ah, t'étais déjà.
Juillet 2013.
Ah ouais, bah 10 ans là. Hein. Ah.
Juillet 2013.
Ah, voilà. Oh là là.
Et moi j'y étais aussi. Mais pas un vendredi, donc je t'ai pas vu.
Ah oui. Il y a un truc qui a fait ding ding mais ding ding ding.
C'est la.
Ah, c'est un.
Une capsule de bière.
Une capsule de bière.
Je vais la ramasser.
Et bon, donc, alors coup, comment ça s'est passé
Pas très intéressant ce que je raconte.
Si, c'est très intéressant. Arrête.
Et alors,
je sens que tu caches des trucs en fait. On est obligé de tirer
un peu.
Non,
c'est pas que je cache, c'est que je cherche dans ma mémoire.
Non, mais parce que c'est des choses qu'on ne matérialise pas dans sa tête exactement comment le cheminement.
Raconter ma vie.
Bah ouais.
Et quand Alex t'a proposé de venir faire une chanson. Toi, t'avais jamais fait cet exercice de faire une chanson à la radio
Non,
sur,
jamais.
Non.
Ah non, pour moi, c'était Noël.
Et tu l'as appréhendé en disant « Ouais, trop bien, c'est la même chose que ce que je fais sur scène ou au Caveau de la République. » Mais
Non, en plus, avec Alex, c'était cool.
Ouais, parce que t'as eu tout de suite un bon rapport avec lui.
Oui, on a tout de suite.
Ah ouais,
ok. Pour ma part, j'ai tout de suite sympathisé. Lui, je sais pas. Faudra lui demander.
Non, je pense. Et moi, d'après ce qu'il m'a dit, il t'a détesté. Donc, il s'est dit, je vais le faire venir pendant le lit, comme ça, je lui casserai la gueule.
Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, il y a quand même deux fois où ou sur deux déclics un peu hasardeux. Un coup,
oui,
le patron
le hasard des rencontres,
du caveau de la République, ouais, qui... Bon, il va faire son marché, donc oui, c'est un hasard...
Oui, c'est après, c'est un peu provoqué. Oui.
Provoqué,
oui,
mais...
Souvent. Mais...
Et en revanche, Alex, t'avais une chance sur... je sais pas combien il y a d'humoristes, mais une chance sur 100 de tomber sur un humoriste qui va se lancer dans une émission de radio, et qui est en plus une émission qui dure 10 ans. Quoi, donc,
est-ce que tu sous-entendrais que dans toute carrière, Ramzi, la chance...
J'aime pas quand elle est mauvaise.
Bah oui.
Non, mais là, je déconne, mais oui.
Ouais. Bah oui, beaucoup.
Oui.
Hein. Ouais, toi, t'as eu ce genre de moment un peu chanceux. Ouais,
bien sûr, ouais, plein, info, plein, ouais, mais plein de fous tout le temps. Oui, mais toute vie est... Si tu peux pas faire le compte de ce qui t'est arrivé de bien en disant que c'est simplement par ton talent, ton travail et ta pugnacité.
Oui, bah, mais oui, après aussi... dans l'autre sens, c'est les chances sont provoquées parce que
oui,
par Avignon,
oui,
et par
mais tu peux te mettre. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai connu plein de gens sur ma route qui avaient du talent, qui étaient travailleurs, qui étaient pugnaces et qui en plus se mettaient en situation de. Et pour autant,
et
ils n'ont
pas
eu le moment de bol.
C'est ce que j'allais dire. Pareil, j'ai plein de potes
oui,
qui feraient l'exercice que. Mon exercice, ce que je fais là, mais carrément mieux, mais qui n'ont pas eu cette chance de rencontrer Alex Vizorek.
Alors,
François,
là,
tu vas
François,
te rapprocher du
parle,
micro.
Il parle de la cuisine.
Il est parti.
Parce que c'est plus intéressant.
Non, parce que j'ai été chercher une boisson.
Une boisson. Une bière. Hein.
Non, mais la chance, il y a une part de chance, mais il y a aussi le fait que, tu vois, tu dis, il y a des gens qui faisaient mieux et qui auraient été, mais ils ne l'ont pas
ouais,
eu, machin.
Il y en a plein, ouais.
Mais je pense qu'il y a en plus une part de chance. Je pense, en tout cas, bon, maintenant, moi, ça va faire 4 ans que je suis dans la troupe.
Ouais.
Il y a un truc qui n'est pas juste de la chance, c'est des gens qui se sont aussi trouvés. C'est-à-dire
oui,
qu'il y a aussi un état d'esprit qui fait que c'est des gens qui au moins s'apprécient, qui sont au moins dans l'état d'esprit. Et même si chaque personnalité est très très différente et que chacun n'a pas forcément des affinités avec tout le monde,
oui, je suis d'accord, ouais,
il y a quand même, grosso modo... un état d'esprit de la bande,
ouais,
de,
ouais,
même
oui,
s'il y a des égos
oui,
forts.
Mais
et
alors
tout.
Là, je vais faire un peu le faillot, mais c'est
ouais,
une réalité. C'est le...
Vas-y, t'as entendu, François.
C'est la façon dont Charline et Alex... pas la façon, c'est la sélection que Charline et Alex ont faite.
Oui.
Donc, c'est pas un truc qui s'est fait naturel... par coup de chance, au hasard, ouais. C'est quelque
non,
chose. C'est parce que eux, ils ont choisi des gens
qui leur correspondent,
qui leur correspondent, qui sont bienveillants et qui sont
voilà,
pour créer ce truc-là. C'est
ouais,
pas quelque chose. C'est pas un hasard total de l'équipe.
C'est ce que je dis.
Ah, pardon,
c'est que on parlait de la chance et que c'était pas justement, c'était pas que de la chance.
Oui, pas que.
Et que c'est pas juste le talent. Que d'autres auraient été peut-être
ah, okay,
que quand tu disais d'autres auraient mieux fait que toi.
Oui.
Mais ils étaient pas forcément. Il n'y avait pas eu l'affinité, il ne serait peut-être pas fondu dans
ah
le
oui,
collectif
oui,
et de
ouais,
cette troupe-là.
Ouais, ouais.
En fait, au-delà de la chance, il y a des gens qui se sont trouvés
oui,
aussi.
Oui,
c'est
ça.
Oui,
oui,
oui, puis c'est, ouais, c'est
ouais,
une question aussi de caractère.
Ouais.
Ce n'est pas que le talent de la personne. C'est
non, parce
aussi,
que tournant, tu ne serais pas là.
Bah non.
Je ne sais pas pourquoi tu as pris une balle perdue.
Non, mais ça vaut pour nous.
Non,
nous tous,
en plus,
hein,
il est un petit peu fragile là, en ce moment, Ramzi. Donc, ce que je vous propose,
c'est pas vrai, je l'adore, Ramzi.
Alors, on enchaîne.
Alors,
Juliette,
on enchaîne.
Pauvre Ramzi.
Comme tu as déjà eu une autre vie avant
ouais,
celle de chansonnier, est-ce que tu te dis. Je sais même pas quel est ton âge, en fait, Frédéric.
C'est secret.
D'accord. J'ai l'impression de parler à une actrice des années 40. Tu sais, je ne vous dirai pas mon âge, mais je suis prête pour mon gros plan, monsieur de Bille. Bon. Est-ce que tu te dis j'aurais envie d'avoir une troisième vie?
Ah oui. Ouais, j'aimerais.
Ah.
En fait, si je pouvais faire autre chose. En fait, moi, j'aime. Je suis heureux dans ce que je fais, hein, j'aime bien.
Oui.
Mais après, moi, ma nature, c'est pas de me mettre en avant et d'aller faire le guignol devant des gens. Donc, si je trouvais autre chose, je le ferais volontiers. Par exemple, élever des chèvres dans le Larzac, ça me plairait bien.
Mais parce qu'il se trouve que... Enfin, je sais pas si on peut... Je sais pas, tu m'arrêtes, on le coupera. Hein,
ouais.
Mais tes parents vivent à la campagne.
Ouais. Bah ouais, ouais. Non, mais en fait...
Tu viens pas de la ville, toi ?
Non, mais ce que j'allais dire, c'est quand j'étais petit, par exemple, je me souviens, peut-être sur le ton de la blague, je devais pas trop réaliser ce que je disais à cette époque-là, mais ça faisait beaucoup rire les gens. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais peinard. Moi, c'est mon objectif, en fait. Et par exemple, là, cette activité, bah, ça offre un luxe incroyable, c'est d'être, à mon sens, c'est d'être maître de son temps. Tu vois,
ouais.
Et en ce sens-là, je suis un peu peinard. Donc, j'aime beaucoup ça, mais après, je pense...
Mais tu penses qu'il y a d'autres manières d'être peinard.
Il y a d'autres manières d'être peinard. Même plus, parce que du coup, là, on est un petit peu exposé. On s'expose. Donc, il y a d'autres
manières. Il y a des moments moins peinards
que d'autres. Il y a des moments moins peinards que d'autres. Mais oui, je pourrais faire autre chose. Je sais pas quoi.
On en est tous là. Voilà.
Sur le faire autre chose.
Ne pas
toi, savoir quoi. C'est quelque chose que... Toi, t'as quand même...
Tout ce que vient de dire Fred me semble... tout ce qu'il vient de dire, garder des chèvres, bon, déjà, oui. Après, être peinard, oui. Être maître de son temps, pareil. Ce sont des choses qui m'apparaissent...
Tu dis pas... ça me manquerait quand même de...
D'être devant.
Ouais.
Non, parce que moi, depuis que je suis petite fille, je me mets devant. Je suis pas timide, j'ai un gros égo. J'ai toujours fait ma maline.
Bah justement.
Bah je ferai ma maline devant les chèvres. Non, mais moi je suis pas compliquée, j'ai pas besoin qu'il y ait des caméras, j'ai pas besoin qu'il y ait des foules.
Il y aura la fête du village.
Moi, il s'agit de faire ma maline, donc je ferai ma maline avec des chèvres. Je le fais quand je suis chez moi.
Mais ça te manquerait pas, je sais pas, même de le plaisir de jouer la comédie, de jouer sur scène avec tes copines.
Je l'ai arrêté, ça.
Oui, mais là, le truc n'est pas totalement fermé. Non, mais tu peux éventuellement, si un projet tombe avec une autre personne ou deux autres personnes, tu peux remonter sur scène sans problème.
Oui, je peux, techniquement,
tu peux.
J'ai l'impression qu'on arrive à des âges où le compte... Mais on parle d'âge que je ne connais pas, parce que je ne connais pas celui-là.
Oui, mais
en tout cas, au mien, à moi, non, je vois qu'il y a des choses qui commencent à me plus... Enfin, la balance pense, quoi. Penche.
La balance penche.
Voilà, c'est tout. Il y a des équilibres qui ne sont plus les mêmes. Peut-être que c'est des équilibres hormonaux, je ne sais pas. Mais les envies, ça change au cours d'une vie. Mmh. Et comme Fred a déjà eu une bascule une fois, je ne vois pas pourquoi il... Ça doit être une... Je me disais que peut-être c'était une chose que tu avais en tête, que tu l'avais déjà fait une fois et que ça pourrait t'arriver encore une autre.
Je ne l'ai pas en tête, mais par exemple, disons, si demain ça s'arrête, ce que je fais là, je ne serais pas hyper malheureux, quoi. Je trouverai autre chose. C'est pas...
Ouais.
Pas toute ma vie, quoi, c'est pas grave, je ferai autre chose. D'ailleurs, je trouve, enfin, je devrais pas dire ça, mais ça fait quand même longtemps que je suis à France Inter et je me dis, faudrait peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Mais je suis content de le faire, je vais pas laisser ma place comme
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, François, tu vas nous interpréter un morceau à la guitare.
Non, mais après, en plus, dès le début, j'ai trouvé ça hyper gênant. Mais pourquoi moi, tous les vendredis, on pourrait pas faire un roulement avec plein d'autres que je connais et voilà. Je crois que j'avais
bien, bien prendre ma place, monsieur.
Ben non, mais pourquoi moi? C'est voilà.
Oui. Et ce serait quand même. Ça s'entend, mais c'est enfin, c'est parce que tout le monde n'est pas capable de le faire déjà.
Et en plus, les auditeurs et les auditrices, de ce que j'entends, de ce que je comprends, ils sont. Parce qu'il y a eu une époque où je lisais beaucoup les mails des auditeurs. Et les gens sont... Je ne suis pas sûre que tu mesures l'attachement qu'ils ont
à
ta personne.
C'est un truc qu'ils attendent, la chanson de Frédéric Fromet.
Ouais.
Bon, après, t'en fais ce que t'en veux. Hein.
Ouais,
t'es pas obligé de danser des claquettes quand on te dit ça. Mais objectivement, il y a un attachement
Mais après, ouais. Mais c'est injuste quand même que ce soit toujours le même.
Ah, mais sur l'injustice, mais bien sûr. Mmh. On est bien au courant que la vie, elle n'est pas juste, tu sais bien.
Et toi, François,
ouais,
est-ce qu'à un moment, tu te dis, tu pourrais tout plaquer pour faire une autre vie, un autre truc totalement...
Non. Non. Non, moi, j'ai eu la chance, même si... En gros, j'ai des objectifs de vie artistiques, enfin, de projets, tout ça, qui ne sont pas assouvis. Mais j'ai eu, moi, la chance quand même de faire très vite, de graviter au moins dans le milieu artistique, du cinéma, de la radio. J'ai fait de la post-prod ciné. Même si j'étais technicien ou voilà, réalisateur, une part artistique. J'ai quand même même pendant l'école que je faisais, et même avant, ado, je faisais de la musique, je ne peux pas me plaindre, j'ai réussi quand même à vivre de plaisir artistique, de création. Et c'est ce que je voulais faire, et je ne savais pas, parce que je voulais faire de la musique quand j'étais gamin, puis après ça a évolué. En tout cas, j'avais envie de faire de la création au sens large, je ne savais pas quoi exactement, mais je ne suis jamais aussi heureux quand j'arrive à écrire et que j'arrive à trouver une idée, tu vois, le matin quand je me lève, avant que tout le monde se lève, avant d'aller au travail, ou même pendant la préparation de l'émission. Je suis jamais aussi heureux que quand je trouve une bonne blague, une bonne idée, un truc comme ça. Donc,
tu trouveras cette plaisir-là ailleurs.
Après, j'ai des plaisirs autres dans la vie qui sont familiaux, qui sont. Enfin, je suis aussi comblé.
Mais
donc,
pas dans un autre métier, en tout cas. Tu te dis.
Franchement, non. Et en fait, même moi, des fois, ça me fait peur. Si je devais faire autre chose, si un jour un dictateur débarquait et disant OK, plus de radio, c'est fini. Le cinéma, on oublie. Une musique interdite, l'angoisse d'aller dans un bureau. Enfin, tu vois, moi je me dis, quand je pense aux gens qui sont dans des réunions marketing, des trucs comme ça.
Oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça comme travail.
Non, je sais, mais c'est aussi mes phobies à moi, certainement, tu vois. Mais moi, c'est plutôt l'angoisse de que si ça s'arrête.
Tu peux faire du fromage.
Ouais. Je peux faire du fromage.
C'est pas si facile que ça.
Non, mais apprendre, tu peux apprendre.
Oui,
mais il y a. Non mais ça. Plein d'autres métiers.
Non mais apprendre du fromage. Des fois j'ai des envies d'apprendre des trucs, donc je vais me faire chier pendant une semaine à apprendre à faire un truc.
Ouais, parce qu'en plus t'es monomaniaque.
Toi. Ouais. Et mais après je vais lâcher l'affaire. Tu vois, il y a très peu de choses qui me tiennent comme ça tout au long de ma vie. Tu vois. Donc, on est sur la fabrique. Moi j'aimerais bien savoir un truc. Comment tu fabriques une chanson?
Enfin, vraie question.
C'est de, tout le monde attend ça au bout de son téléphone.
Qui n'a pas de rapport avec nos vies privées tout ça.
Merci.
Alors comment je fabrique? Une chanson dans le cadre de ce que je fais le vendredi ou une chanson pour moi?
Oui, bah les deux.
Déjà la chronique.
Ouais, la chronique, elle est intéressante. Ok, chronique.
Alors, chronique. Le problème, c'est que si j'avais une méthode, je serais bien content. ça m'ôterait d'un poids de trouver une idée. Je lis l'actu, la presse, jusqu'à trouver une idée qui me parle. Souvent un sujet qui m'énerve, ou ça dépend. Ça part toujours d'un sujet d'actu, en tout cas.
C'est pas d'une chanson. C'est pas une chanson, voilà.
Non. Il y a peut-être eu deux, trois exceptions près.
Mais en règle générale,
ouais, c'est le sujet d'actu. Sujets.
C'est pas une chanson qui amène un jeu de mots et qui tu te dis « Ah, je pourrais faire une chanson
ça
là-dessus. »
Ça arrive parfois, mais c'est rare.
C'est plus rare, c'est dans le sens. Ouais, ok.
Ouais.
Et donc, une fois que tu as un sujet d'actu
Une fois que j'ai un sujet d'actu, faut trouver... L'idée de changer.
Tu te mets sur Radio Nostalgie et
j'écoute pas mal de radios comme ça, donc j'ai en tête déjà pas mal de chansons du répertoire. Et après, comment je fais mystère. ce qui est bien vraiment pour que ça fonctionne, c'est que le texte détourné colle au plus près du texte d'origine. Là, c'est plus rigolo. Donc, quand j'ai trouvé ça, c'est pas mal. Mais après, il n'y a vraiment pas de règle.
Tu fais la chanson le vendredi. Et généralement, tu l'écris quand
Le plus tôt possible et le mieux.
Parce que sinon, tu es en stress.
Sinon, je suis en stress.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire,
m'est déjà arrivé un vendredi matin de ne pas avoir d'idée.
Ah ouais.
Ah, c'est le gros stress. Mais maintenant, à force, je ne sais pas. C'est vraiment. J'en ai entendu parler dans les émissions précédentes du podcast. C'est vraiment une gymnastique aussi. Hein. C'est-à-dire que quand il y a une interruption, ne serait-ce que deux semaines de vacances. Pour s'y remettre, j'ai déjà un peu perdu
la mécanique.
Ouais.
Et ça veut dire quoi le plus tôt possible? Ça représente quoi? C'est genre dès le lundi?
Dès le vendredi à 18h, dès que j'ai terminé une chronique, je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire vendredi prochain?
Mais ça te fait une chouette vie, dis-moi.
Oui, en fait, et des fois, ça me travaille jour et nuit, vraiment.
C'est vrai, ouais.
Ça me réveille la nuit parfois.
Wow.
Même pendant les vacances, les grandes vacances, les congés d'été, des fois j'en fais des cauchemars. Des fois je me dis, merde, j'ai pas trouvé d'idée pour. Et après je me dis, mais non, en vacances. Bon, bref.
Et t'as pas des choses un peu froides que tu peux faire qui sont pas liées à
qui
une actu,
comme des
mais
marronniers,
qui... Oui, des sortes de marronniers, par exemple, je sais pas, la chandeleur, Pâques, ou j'en sais rien, tu vois, des éléments qui te permettent d'avoir au moins quelques béquilles et te dire, bon, si j'ai rien, au moins j'ai ça. Non.
Non, je suis pas de béquille.
Ah ouais, donc
ouais, t'aimes bien te faire mal.
Mais après, c'est moi qui me mets trop de pression parce que quand on voit le résultat, on se dit bah c'est bon. Et en plus, non, mais sérieusement, c'est juste une petite disserte comme pourrait faire un collégien, quoi. Donc c'est pas... faut juste trouver.
Ça fait longtemps que t'as pas lu des rédactions de collégiens, crois-moi.
Non, mais c'est ouais. Non, mais du coup, ça me travaille tout le temps. Ouais.
Et j'ai une autre question. Est-ce que t'es aussi co-auteur, t'étais ou
ouais.
Je sais pas comment.
J'étais.
T'étais co-auteur dans l'émission.
Oui.
T'écrivais des blagues pour le journal de presque 17h17.
Ouais. Et un sketch.
Et le sketch de fin d'émission.
Ouais.
Et est-ce que ça te collait le même stress que écrire ta chanson?
Non.
Non.
Non, parce qu'en plus après c'est pas moi qui le.
Qui l'interprète.
C'est pas moi qui l'interprète, donc ça va. Non, ça c'était...
Mais il y avait une réécriture aussi, certainement.
Oui, il y avait une réécriture, ouais.
Tu te sentais peut-être pas seul, toi, face au...
Non.
Ah.
Au truc.
Oui, ensuite, je donnais le texte
à Alex.
Et quand
t'étais... Le stress, il a augmenté au fur et à mesure des années?
Non, il diminue. Vraiment. Parce que je pense avoir acquis... Enfin, une mécanique, vraiment, qui me... Ouais, ça diminue.
Je
me mettais beaucoup
trop de pression
avant. Je
croyais qu'il n'y avait pas de mécanique. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de mécanique.
Non, mais c'est une mécanique qu'on ne peut pas exprimer.
Dire, ouais.
Mais en fait, c'est un truc mental qui s'installe.
Je n'ai pas une méthode. Hein,
oui, voilà.
Ça, c'est... non, il diminue, vraiment.
Oui, il y a une confiance. Tu te dis, quoi qu'il arrive, je vais trouver quelque chose.
Et il diminue aussi. Bah, de toute façon, je n'ai pas le choix.
Ouais.
Et il diminue aussi parce qu'au début, j'étais très... J'allais beaucoup, pas beaucoup, c'est relatif, mais je lisais les critiques qu'on pouvait faire après, les critiques des auditeurs.
Ah oui.
Donc ça me mettait une pression terrible. Et maintenant, je ne lis plus rien du tout. Je m'en fous complètement. Je vais pas sur les réseaux. Je suis tranquille. Donc du coup, pouf.
Mais tu lisais, ça te mettait la pression, les bonnes et les mauvaises, les deux, ou que les mauvaises, que les mauvaises, ouais.
Ouais, vraiment, ça mine le moral. C'est vraiment une saloperie, les réseaux, pour ça.
Oui, parce que ce qui est plus mis en valeur, c'est les mauvaises critiques, de toute façon. Ce qui est plus mis en valeur, c'est toujours les haters. Il y a toujours des gens qui vont prendre le temps de dire un truc dégueulasse. Et les gens qui aiment bien, ils ne vont pas forcément écrire, ils vont juste bien aimer.
Et ça touche vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ça me touchait vraiment.
Ouais.
Du coup, vraiment, là, j'ai réfléchi. Et depuis que j'ai arrêté de lire tout ça, je me mets beaucoup moins de pression et j'ai moins de stress.
Et c'était il y a longtemps
La semaine dernière.
Le déclic qui t'a fait te dire « Ok, je vais arrêter de lire ça parce que ça me nuit ».
Je dirais il y a 3-4 ans. Maintenant, mon seul stress, c'est de ne pas trahir la confiance qu'on m'accorde en m'offrant cette place sur France Inter. Quoi. Voilà.
Et toi, Juliette, est-ce que tu lis les...
Alors, moi, j'ai vécu exactement la même chose que Fred. Et moi, ce qui m'a convaincue d'arrêter de faire ça, c'était il y a très, 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 très longtemps... Je suis très très vieille. C'était une phrase de l'écrivaine Marie Darrieussecq qui, dans une interview, elle racontait avec beaucoup d'honnêteté qu'il y a eu un moment où elle était obsessionnelle, elle tapait son nom sur Google, elle s'auto-googlait et elle est tombée sur des trucs ultra violents. Et elle a eu cette formule dans l'interview, c'est une interview écrite, et elle disait il y a eu un moment, je me suis lassée de laper ma propre flaque de pisse. Et j'ai trouvé cette formule, c'est une chouette écrivaine, et elle avait la formule, et en fait ça m'a giflé, je suis devenue toute rouge en fait, et c'est la honte, vraiment la vergogne, où je me suis dit non, je veux pas, moi non plus je ne veux pas laper ma propre flaque de pisse, et donc j'ai arrêté instantanément, et depuis je ne le fais jamais. Je m'en bats les reins de l'opinion des autres en général, malheureusement je m'en bats les reins.
Oui, bah en même temps, ça donne une liberté totale.
Parce que c'est un choix. Ouais. Parce que c'est moi qui ai décidé que je m'en foutais. Ça n'avait pas, ça n'avait pas de valeur.
Ok.
Voilà.
Moi, je suis d'accord avec Juliette.
Enfin, les gens que je ne connais pas. Voilà, les avis des gens que je ne connais pas ne m'intéressent pas.
Et puis, il y a des gens qu'on connaît, des fois, les avis aussi, on peut s'en passer. Hein.
Et déjà, dans les gens qu'on connaît, voilà. Et quand j'ai vraiment un trouble, mais je pense que toi et nous tous, c'est pareil.
Vrai,
quand j'ai vraiment un vrai trouble sur ce que j'écris, sur ce que je fais et tout ça, je sais à qui je vais m'adresser.
Voilà, t'as des gens de confiance.
Oui, des gens.
Mais est-ce que c'est facile de se... de ne pas aller voir. Est-ce que il y a quand même c'est facile pour toi?
Ouais, c'est très facile.
Ah ouais.
Tu vas pas, c'est tout.
Ouais. Non mais c'est ça, c'est le jour où tu décides, c'est un clic dans ta tête. Oui, ah non, mais c'est un clic dans ta tête.
T'as la tentation, t'as tous les trucs qui sont accessibles. Mais vous arrivez, il y a pas de difficulté à ne pas.
Ah mais c'est un tel repos.
Ouais.
Une fois que tu l'as fait, c'est un tel et puis ça te recentre, c'est-à-dire tu. Ça n'a pas, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Exactement.
Ça n'est pas pour de vrai.
Au départ, c'est pour se nourrir de ça. C'est pour flatter son ego.
Moi, je pense que je sais pas pour Fred, mais moi, très clairement, c'était pour flatter mon ego. Mais j'étais bien reçue. Voilà, j'ai bien compris. Puis tout. Puis quand t'es une femme, en plus, t'as droit à.
Avec tous les trucs sexistes.
Toi, on t'explique ton physique. Explique si oui ou non t'es désirable par des types que tu toucherais même pas les soirs de plus grand désespoir, etc., etc. Et puis tu te rends compte qu'il y a des femmes aussi qui parlent de ton physique. C'est terrible. Donc non, c'est une image du monde qui n'est pas vraie, en plus, parce que les gens normaux, pardon, mais ils écrivent pas de commentaires sur Internet. Voilà. Vous écrivez des commentaires sur Internet? Des vidéos?
C'est les haters?
Jamais.
Ah bon?
Moi, j'écris toujours first quand je mets le premier commentaire sur. Non, c'est pas vrai.
Non, mais c'est ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment une volonté de nuire, donc il y a une intention, donc il y a une énergie d'un haters. Alors que les gens qui t'apprécient, ils t'apprécient juste. De temps en temps, ils vont écrire un truc quand c'est exceptionnel, quand ils disent cette chronique-là de Juliette Arnaud, ça m'a rappelé mes souvenirs, machin, donc ils vont l'écrire. Mais il y a ceux qui nous aiment, ceux qui vous aiment, n'écrivent pas beaucoup.
Oui, mais même ce mot-là, de mettre le verbe aimer, de parler d'amour, ça, c'est des mots qu'on emploie beaucoup les gens qui font nos métiers, et ils ne devraient pas. Ça salope tout, c'est sale.
Ça nuit à la création.
Mais on a le droit d'aimer Juliette quand même.
Mais ce n'est pas aimer, vous savez pas.
On a le droit d'apprécier tes chroniques, d'aimer ta personne.
Les gens qui aiment une chanson de Frédéric, ils aiment une chanson de Frédéric, ils ne connaissent pas Frédéric, donc ils ne peuvent pas aimer Frédéric, ça n'a pas de sens.
Ils aiment la projection. Alors, si on peut faire une analyse psychologique, mais oui, ils aiment la projection qu'ils mettent sur.
Il a l'air sympa. Oui. C'est une projection.
Alors que c'est un salaud, Frédéric Fromet.
Exactement.
C'est la personne la plus toxique tous les auditeurs du bureau.
À pied, à cheval,
ils savent bien se faire foutre avec leurs commentaires débiles. Ah, génial ta chanson.
Frédéric Fromet mange des enfants. Frédéric Fromet mange des enfants.
Mais c'était que des enfants. Il mange des chats.
Des chats. À la cantine, il mange tous les desserts. Quand il mange.
Ah bah oui.
Mais tu m'étonnes que t'es allergique.
Il mange tous les desserts à la cantine,
ça, c'est
vrai. Sa personne.
Ça, c'est vrai.
C'est bon, vous avez fini, les enfants?
Ouais. Moi, je voudrais revenir sur la fabrique. Alors, du coup, on a parlé de la fabrique de tes chansons, de la chronique. Et alors, moi, je te connais pas bien en spectacle.
Oui.
Moi, je t'ai vu une fois quand j'ai débarqué dans l'émission à Tournon, Jupiter Show, où là, j'ai vu des chansons à toi qui étaient un bout de ton spectacle.
Ouais.
Mais alors, comment tu construis tes chansons? Comment tu construis ton spectacle?
Bah, alors, c'est toujours pareil. Je pars d'un sujet. Mais là, du coup, c'est pas forcément un sujet de l'actu du moment. Un sujet, ça peut être n'importe quoi.
Bah, exemple, sur ton spectacle, là, dis.
Là, comme ça. Oui, après, c'est des sujets que j'ai déjà abordés au travers des chroniques. La chasse, la religion, le sport. Beaucoup, je me moque beaucoup des chanteurs pendant mon spectacle.
Ah ouais?
Ouais. Ah, plein de chanteurs.
Mais qui les vilain. Tu te moques de qui?
On va tous crever.
Manu Chao, Francis Cabrel, voilà, Damien XVI.
Les vivants. Tu te moques pas des morts?
Ouais, que des vivants.
C'est bien, mamie.
Ouais. Benjamin Biolay, toute la scène, toute la playlist de France Inter y passe, je pense. Voilà, tous ces chanteurs-là. En fait, je me moque de tous les gens dont j'ai l'impression qu'ils se prennent au sérieux ou qu'ils sont prétentieux ou voilà quoi.
Ça, c'est un moteur pour toi?
Oui, c'est vraiment un moteur. Bah, dès quelqu'un se la pète ou se prend au sérieux, c'est une cible directe. Ouais, ça fait du monde.
Il a encore 25 spectacles, on attend ça.
Non, et voilà. Oui, c'est vraiment un... D'ailleurs, mon spectacle, il fallait un titre, ça s'appelle Cœur de moqueur. Et du coup, je me moque tout le temps. Et c'est vraiment le fil conducteur du spectacle, c'est la moquerie. Donc après, comment je procède? Dès qu'il y a un sujet, je bicole, puis je trouve une petite mélodie de préférence entêtante, un truc qui reste bien
en
tête.
Et là, tu crées?
Oui, et mélodie. Là, je crée. Ouais. Ah,
d'accord. Et, je crée des chansons existantes.
À, on va dire, à, c'est juste pour... Parce que là, je me suis inspiré justement d'une méthode de création de Georges Brassens.
Ah, en fait, ah, on y revient.
Quand yes. il, d'après ce que j'ai lu, hein, quand il écrivait ses chansons, il n'écrivait jamais la mélodie, il ne l'enregistrait pas non plus. Enfin bref, et, parce qu'il disait que si le lendemain, il ne l'avait plus en tête, c'est qu'elle n'était pas bonne.
Ah, c'est marrant.
Et moi, c'est vraiment un truc que j'applique aussi. Je ne l'écris pas, je ne l'enregistre pas, j'ai une petite mélodie. Si le lendemain, je ne m'en souviens pas, bah, c'est que c'était nul.
C'est bien.
C'est un risque que tu prends.
Oui, mais ouais. si ça ne m'est pas resté
ouais,
en tête,
ça si ça ne m'est pas resté logique.
En tête, pour moi, c'est mauvais.
Ouais.
Et du coup, bah, ça marche parce que les gens...
tu veux faire que
ça,
des chansons qui restent
effet,
en tête.
Quoi.
Ah bah ouais. Oui, mmh. tes chansons restent.
Et est-ce que tu t'es jamais réveillé le lendemain matin en disant... T'avais bien aimé la mélodie la veille.
Ouais.
Et dis, je m'en souviens pas.
Ouais, ça m'est arrivé. Et du
ça
coup,
t'énerve
bah,
pas
bah non, je
tu
me dis
pas,
qu'elle
est. Ah, mais t'es quand même bien. Je l'avais bien aimé.
Non, je me dis qu'elle était pas bien.
C'est un peu comme mes idées de sieste.
Oui, alors toi, on en reparlera de ça, mais les idées de sieste, ça reste des idées de, ça reste des rêves en fait et des choses qui n'ont ni queue ni tête.
Alors, je suis pas d'accord avec lui. Mais on en reparlera. Ouais.
Bah, t'as jamais écouté ces idées de sieste.
Oh, tout à l'heure, j'en ai une. J'ai trouvé
ouais,
un
ouais,
bout du
bien.
Questionnaire.
Oui,
c'est pas
bien,
gentil.
Et
c'est vrai que c'est complètement con, mais bon.
Oui, mais des fois, c'est notre inconscient au réveil entre deux os qui nous.
Entre deux os, c'est le meilleur moment.
Mais il nous donne la réponse d'une question, des fois, qu'on essaie de.
Ou il nous donne l'illusion d'avoir une réponse, mais en réalité.
C'est un peu comme la drogue.
Pas. Voilà.
Sans drogue.
Et sur scène, t'es.
Faites des
t'es...
siestes.
Non, et du coup, je me permets juste de revenir sur ma méthode.
Oui,
de...
oui, pardon, excuse-moi, ah ouais. c'est
quand
ton podcast.
Non, non. Mais. Et voilà, et si j'écris. Donc, en fait, quand j'ai la mélodie, j'écris. Généralement, il y a un texte qui vient en même temps, quoi. Et si le lendemain, je me souviens plus de la mélodie, bah, avec mon texte, j'ai l'air malin.
Ah oui.
Donc, j'essaye de retrouver une autre mélodie, mais généralement, ça marche pas. Du coup, tout est foutu.
Ah oui, tu fous tout. Et tu mets tout à la poubelle alors?
Non, je garde ça dans un cahier, puis du coup, il y a des petits bouts de texte que je peux reprendre si je refais.
Ah, c'est fou
une autre
ça,
chanson.
En fait. Du coup, mais... ça fait beaucoup de. Est-ce que ouais. tu as beaucoup de pertes?
Ah oui, oui.
Si beaucoup. On parle en pourcentage.
Mais en fait, on genre... parlait aussi de mécanique. Moi, j'écris des bouts de texte tous les jours, en fait, quand même. Enfin, en tout cas, pour mon propre spectacle. Là, je ne parle pas des chroniques. Mmh. Et du coup, oui, il y a beaucoup de pertes, mais dans en fait, le fait d'écrire tout le temps aussi, il y a beaucoup de matière. Et du coup, je pioche des petits bouts de temps en temps dedans.
D'accord.
Mais après, le processus créatif, je ne réponds pas forcément à vos questions, mais ça vient... Enfin, pour ma part, hein, c'est la lecture, en fait. Plus tu lis... plus ça te donne des idées d'écriture.
Ah mais oui,
plus
parce qu'il y a un truc...
Moi, je me nourris.
Fred, il lit, c'est une des rares personnes...
qui lit beaucoup.
Dont je puisse parler autant de moi, hein, parce que c'est pas dans l'émission que ça lit beaucoup de
j'ai
livres.
J'ai pas le temps de lire, moi.
Voilà, je viserai ouais, personne, mais enfin, en gros, à part Fred et moi, il y a personne qui bouquine. Hein
non, mais je pense que pour écrire, il faut lire.
Ah
crie pas.
Ouais, c'est vrai que
j'en ai là. Enfin, pour mon cas, hein, je me nourris
ouais,
de...
Mais
de la lecture.
Dans quel sens? Parce que du coup, c'est pas la même écriture.
Non, mais c'est comme ça que tu as des idées. Moi, les idées, elles viennent souvent.
Mais tu lis, tu précises, tu lis beaucoup de romans. C'est ça que je veux dire. C'est ça que tu lis.
De tout.
De tout.
Ouais, presse et romans.
D'accord.
Et je pense que ouais, ça aide beaucoup.
Et ça t'aide oui. à développer.
Bah, déjà, ça me donne des idées. Et
qui n'aurait des fois rien à voir. Par exemple, tu vas lire un roman qui va
ouais.
parler de.
Et
tu aimes bien les
polars.
Les polars,
ça ne m'inspire jamais des chansons.
Ah, d'accord.
Mais oui, c'est souvent.
Une
c'est
phrase va
une
t'inspirer.
Phrase qui fait
chose.
Tilt. Dis, oh.
Et voilà. Ça, tu peux partir sur un truc qui n'a rien à voir avec la phrase, mais ça te donne une
ouais.
idée, un thème.
Ouais.
C'est quoi
une phrase ou un mot.
C'est la sonorité de la phrase ou la. Ou l'éveil d'un mot qui t'amène quelque part. C'est ça. Ok.
Oui, bah. mais je peux comprendre parce que des fois j'ai ce truc-là de lire des fois des choses. Alors pas autant que toi parce que je lis pas autant que toi, mais un article de presse, quelque chose, et ça va m'envoyer d'un coup, je sais pas pourquoi,
ouais.
sur une autre idée. Ça va me déclencher quelque chose, ouais. Non, mais c'est vrai.
Mais pour créer, il faut se nourrir,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Donc après chacun trouve la nourriture où il veut, mais moi c'est dans la lecture.
Et est-ce que les mélodies que tu perds avec les bouts de texte que tu tresses sur les bras...
Est-ce que tu peux les donner à François?
Ah
non,
oui, pour changer
non.
le générique de flûte, là.
Ah non, hein, ça suffit. Hein. Est-ce que je sais pas moi, un an, deux ans après, d'un coup, tu retrouves cette mélodie et tu réapparais.
Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais. Non, okay. Jamais.
Ou alors tu t'en souviens pas, vu que tu l'as oublié une première
fois. Ah oui, peut-être. Oui, effectivement.
Mais si, parce que des fois, quand on se souvient d'un truc qu'on a oublié, on fait « Ah oui, c'était ça !»
Ouais, je sais pas.
Ding, ding, ding. Ah, mais oui.
Non. Là, par exemple, demain, je m'en souviens pas. Ding, 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 ding. Non.
Non, mais là, c'est un peu rapide comme mélodie.
Ah, ok, ouais. Mais, bah, ouais. Non, mais les mélodies aussi, c'est très important dans la création d'une chanson. Je vais citer Jean-Jacques Goldman.
Ah, oui. Encore un matin.
Tu dis du mal à Jean-Jacques Goldman. Attends, non, qu'est-ce que j'ai dit, hein.
C'est aussi une phrase que je trouve chouette. Il a dit... On entre dans une chanson pour la musique, on y reste pour le texte. Et je trouve ça très, très chouette.
C'est vrai.
C'est assez pertinent. Ouais. Ouais, ouais. De façon, comme souvent ce que dit Jean-Jacques Goldman, hein. Pardon Fred, je sais que...
Non mais ouais, j'aime bien cette phrase aussi.
Et est-ce que l'écriture se fait aussi dans ce sens-là? Avoir la mélodie d'abord et ensuite l'écrire?
Moi, généralement, ça est en même temps.
En même temps, ah ouais.
Peut-être c'est déjà... Non, ouais, c'est en même temps.
D'accord. Et vous êtes combien sur scène, puisque t'es pas tout seul?
Nous sommes trois.
Trois.
Et j'ai des vrais musiciens qui m'accompagnent, qui eux savent vraiment jouer de la musique.
Et qui t'accompagne? Et quel instrument?
Ah, il y a de la contrebasse, de la grosse caisse, du clavier, ou piano, selon les moyens du lieu qui nous accueille, et de l'accordéon, et surtout... Mes deux musiciens, parce qu'ils se connaissent bien et avant ils avaient un groupe ensemble, ils font des chœurs et c'est vraiment le plus du spectacle. C'est très joli, très harmonisé.
Il s'appelle comment?
Alors il y en a un, il s'appelle Rémi Chaton, c'est pour avoir plus de vues sur internet. Voilà. Et l'autre c'est François Marnier.
Un alcoolique.
Il y en a un, je peux l'appeler si vous voulez, il habite juste
pas,
à côté.
T'es pas allergique à Rémi?
Non, ça va.
Et cette passion des jeux de mots quand même, parce qu'il faudrait y venir aussi.
Cette passion des jeux de mots, on en parlera dans le prochain
épisode. C'est une névrose.
Et on en parlera dans le prochain épisode.
Oh là là,
avec Thomas Croisière.
Ah non, avec toi, Frédéric. Et on pourra parler des commentaires, lui.
Oui, parce que c'est lui qui commente ses propres vidéos, donc là c'est autre chose. Merci beaucoup, Fred.
Bah merci à vous. Je sais pas si on a bien abordé le sujet, mais c'était un peu confus.
Non, c'était pas
confus. Non, vos questions.
Très clair. Ça c'est vrai.
Je déconne, excusez-moi.
Moi j'ai vachement aimé le passage du caveau de la Huchette, c'est hyper bien.
Ce que j'ai préféré, c'est tout ce qu'il a dit sur le jazz au caveau de la Huchette.
Non mais voilà.
Et on fait les... ouais, on fait le générique de fin.
C'était la fabrique.
Quoi?
Je suis atterré. C'est vachement bien comme fin.
Tu peux pas être atterré par nous tout le temps. Vas-y, Ramzi, t'es pas gentil.
On a fait un super générique de fin.
Super générique, c'était un jam.
Ouais. On n'a pas fini parce qu'il faut dire au revoir à Fred.
On va rechanter après, trop bien.
Au revoir.
Donc, merci Fred.
Merci à vous trois.
Tu as une promo, hein, t'as ton spectacle donc, qui tourne partout en France
toute l'année.
Bah partout. Par exemple dans le sud-est, il m'aime pas trop. Je sais pas pourquoi.
Ah bon?
Oui, donc pas partout, mais on peut trouver tes dates de tournée sur
dans le nord de la France.
À Perpignan, il ne jouera pas.
En Bretagne, je joue beaucoup. Bah, par exemple, je dois jouer à Nîmes bientôt. Ouais. Et le maire s'est rendu compte que c'était moi. Du coup, il y a une petite polémique pour savoir si je suis le bienvenu ou pas.
Avec l'accord. Oui, parce qu'il aime pas trop la corrida, faut le dire.
Alors, j'en parle pas du tout dans le spectacle. Et donc, l'adjointe responsable de la culture, elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit sur France Bleu? On l'a envoyé. Elle a dit que je venais à mes risques et périls. Youhou!
Oh là là! Mais en tout cas, on peut trouver toutes les dates
sur
de concerts
sur un site internet. Voilà.
Et donc, tous les vendredis sur France Inter.
Exactement.
Tu fais aussi la tournée France Inter?
Aussi, je fais ça. Ouais. La prochaine date, c'est à Biarritz.
C'est presque au sud.
Ouais. Mais Biarritz. Non, il n'y a pas de corrida à Biarritz.
Biarritz.
Bah, il y a Bayonne.
Il y a Bayonne,
pas...
les pieds. Il y a les vachettes, hein, au moins Bayonne.
Non, mais Biarritz, t'inquiète, il y a que des surfeurs et les vieux.
Ouais, ouais, ils sont gentils là-bas.
Merci Juliette, merci François.
Merci Ramzi.
Merci Ramzi et bravo pour merci toutes ces Frédéric. Questions très pertinentes.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.